Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, LeRéveilDesFans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. Spectre 5 to Ghost, going in now. Bienvenue à Star Wars en direct, Rebels.
Look, I work alone. How about a little less attitude and a little more altitude?
Le podcast de discussion et de commentaires sur la série animée Star Wars Rebels.
I need to be ready to take off or none of us stands a chance. If you care to blast one of those TIEs out of the galaxy, I don't think anyone would object. Shields down. Chopper, fix them!
My name's Sam. It's possible I may be a little late.
Wait, are you fighting stormtroopers?
What makes you say that?
Bonjour et bienvenue à Star Wars Direct Rebelle numéro 9 pour cet épisode spécial sur lequel nous allons attaquer la saison 3. Nous avions précédemment fait le Star Wars en direct Rebelle numéro 8 dans lequel nous avions parlé de l'arrivée de Thrawn, hein, de nos pronostics. Nous allons voir justement si ce début de saison est à la hauteur de nos attentes. Nous critiquerons dans ce neuvième épisode les épisodes de la saison 3, tout d'abord l'épisode 0, c'est-à-dire l'épisode spécial Step into Shadow, et ensuite nous ferons les trois premiers épisodes numérotés qui passent à la télévision. Pour aujourd'hui, cette nouvelle émission, je suis accompagné de trois comparses. Tout d'abord, honneur aux dames, Céline. Bonjour Céline.
Bonjour.
Je suis également accompagné de Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Et de notre monteur vidéo, Jérémy. Bonjour Jérémy.
Salut.
Alors avant que nous nous lancions dans cette critique hautement intellectuelle, je vous propose de faire un petit WhatsApp. On va peut-être commencer du coup par Jérémy, parce que c'est peut-être toi qu'on n'a pas vu depuis le plus longtemps. Donc Jérémy, quoi de geek en Star Wars depuis qu'on t'a parvu?
Oh, bah pas grand-chose finalement. J'ai entre guillemets reçu ma Hot Toys de Rey, qui en fait est chez mes parents en France, et donc je dois attendre encore un mois avant de l'avoir.
Donc en fait, tu l'as même pas reçu quoi?
Ah si, elle est chez moi, en France. Donc je dois attendre, ça fait déjà 2 mois que j'attends, je dois attendre encore un petit mois, fin décembre, pour la voir. Mais je sais qu'elle est là, donc ça c'est cool. Et à côté, je me suis refait les 7 films maintenant de Star Wars pour me préparer à Rogue One, que j'attends avec impatience. Et je suis en train de faire l'inventaire des figurines que j'aimerais choper pour les fêtes de fin d'année.
Super. Céline ?
Ben moi pas grand chose non plus, et d'ailleurs j'aimerais bien pousser un petit coup de gueule là-dessus, parce que quand j'entends les WhatsApp de Sylvain qui dit j'ai fait une razzia sur Célio, chez les femmes y a rien, voilà, comme d'habitude, tout pour les hommes pour Star Wars.
Eh, c'est vrai, j'avais pas tilté, y a pas de fringues. Version
que sur le net, quoi.
C'est totalement fou. Attendez, moi quand je vais chez Primark, on trouve pour les femmes plein de trucs. Hein.
Non, mais la collection Célio, y a pas.
Chez Célio, y a pas grand chose pour les femmes tout court. Hein, c'est...
ouais, non, mais y a pas les, non, y a pas l'équivalent dans une autre.
Quand tu regardes,
pareil, chez Jennifer, moi j'ai jamais trouvé de trucs Star Wars pour les hommes. Je suis dégoûté, quoi.
dans les grandes marques, genre CA ou Kaby, qui ont des accords. Y a des collections hommes et il n'y a pas de collection femmes.
C'est vrai, sur toutes les grandes marques, t'as rien. Si tu veux des vêtements femmes, faut toujours aller sur internet, sur eBay ou sur les sites genre AliExpress, tout ça. C'est pareil d'ailleurs pour le sport quand tu remarques.
À la rigueur, voilà, sur les sites ThingGeek ou des choses comme ça, très très spécialisés, oui, tu trouves, mais dans le magasin au coin de la rue, pas grand chose.
Sylvain, quant à toi, qu'est-ce que tu as acheté comme chaussettes ?
Rien de plus depuis le dernier WhatsApp, puisqu'on enregistre celui-là quelques jours après notre épisode sur l'interview de Gareth Edwards. Pas de WhatsApp.
Ah si, t'as un petit WhatsApp pour le 12, là, tu peux nous, depuis la dernière émission.
Oui, effectivement, ça y est, j'ai ma place, les menaces envers Disney ont marché, j'irai enquiquiner Sébastien la projection presse de Rogue One.
On sent beaucoup d'enthousiasme là dans ta voix. Hein,
c'est... Comme je t'ai dit, je suis debout depuis à peu près 10 minutes, donc il faut le temps que je me réveille.
Super. Bon, alors, me concernant, moi, mon WhatsApp, il a assez peu évolué depuis la dernière fois. Je suis toujours dans le Lord of the Sith, hein, le bouquin qui se passe sur Ryloth, c'est toujours top. Et puis, allez, juste pour faire une petite transition entre nos WhatsApp et l'émission, le thème du jour, Star Wars Rebels, on a vu un dernier petit clip. Je vais pas donner le nom du vaisseau qu'on a vu, mais on a vu un vaisseau. A priori un vaisseau qui devrait faire des liens entre une certaine série télé et un certain film qui sort, et a priori ça veut dire que nos pronostics de la dernière émission commencent à peut-être s'entrevoir. Alors on va essayer de toute façon d'aller de moins en moins sur les différentes plateformes, et à partir du 12, quand les premiers vont avoir vu le film, moi je ne vais plus y aller du tout, mais ça me laisse entrevoir que peut-être on va pouvoir voir des persos sympas dans Rogue One, et peut-être que le cross-média va vraiment nous envoyer du lourd de chez lourd, quoi. Et alors là, franchement, si ce fameux vaisseau qu'on a pu voir dans une bonne annonce est bien celui qu'on pense, et que les persos qui vont dedans vont avec, ça pourrait être franchement énorme, aussi bien pour une certaine série télé que pour un certain film. Donc vraiment, là, j'étais comme un fou aujourd'hui, je m'étais promis de plus regarder ces trucs-là, mais j'ai pas pu. Y a des titres accrocheurs qui font que t'y vas quand même, et c'est une vraie drogue.
Ouais, c'est des séries Star Wars, y en a pas des masses qui passent.
Il y en a deux, et des films, il y en a huit.
Ouais, enfin, mais... un qui sort prochainement, il y en a
une seule série qui est en cours. Bon,
bon, ok. Alors, de toute façon, c'est de l'officiel, hein, c'est pas une rumeur. C'est un officiel, puisque c'était dans un teaser. On a vu, a priori, le Ghost dans un armada de vaisseaux rebelles qui partent en attaque, donc ça laisse supposer qu'on verra peut-être au moins Hera Syndulla, et peut-être les autres, hein, ce serait vraiment énorme ici, mais je pense que je vais bondir sur mon siège si je les vois pour de vrai, et j'espère ne pas me faire spoiler s'ils y sont et avoir la surprise. De la même manière, on voit un vaisseau qui ressemble soit au Tantive 4, soit au vaisseau de Sato, voilà, ça laisse entrevoir quelque chose de vraiment cool, et ça nous laisse peut-être espérer que la fin de la saison de Star Wars Rebels, comme on l'avait dit, se passerait en lien avec Rogue One. Et alors ça, ce serait vraiment trop bon. Ce serait vraiment trop bon. Voilà, enfin, j'en peux plus, quoi. On va vite passer en hyperespace avant que... voilà.
Avant qu'il ait un orgasme.
Avant qu'on dérive trop. Dis-moi. Alors, je vous propose, messieurs, que nous passions en hyperespace.
Oh, crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Alors, on se lance tout d'abord sur le premier épisode, hein, qui avait été diffusé en fait à la célébration à Londres, qui est en fait un double épisode spécial, un petit peu comme les épisodes 0 qu'on avait dans la saison 1 et la saison 2, qui s'intitule en anglais Step into Shadow et qui a été traduit en français par Au cœur des ténèbres. Il a été diffusé aux États-Unis le 24 septembre et en France seulement le 11 novembre. C'est beaucoup de retard puisque les autres saisons commençaient aux vacances de la Toussaint plutôt en octobre, et donc là, ça a mis du temps. Mais bon, a priori, c'est quand même sympa, donc on va pas se poser trop de questions. Aux États-Unis, il a fait 563 000 téléspectateurs, ce qui est pas mal, mais un peu en dessous des précédentes saisons. Rapidement, on va redonner le résumé. Ça nous donne en fait une petite timeline, puisque ça se passe a priori 6 mois après les événements de Malachor, hein, qui s'étaient terminés à la fin de la saison 2, avec notamment la disparition d'Ahsoka. On ne sait pas toujours si elle est morte ou pas. A priori, tout le monde pense qu'elle est toujours vivante, mais en tout cas, personne ne le sait dans les personnages. Kanan est toujours aveugle, hein, il a un espèce de bandeau. Il s'est fait pousser une barbe de hipster, donc voilà, on sent que le personnage a mûri. Ezra, il a pris des épaules et puis des joues. Alors, il est devenu un peu plus... Bon, je trouve qu'il a une sale tête d'ailleurs. Hein. J'aime déjà qu'avant le mode Aladdin, j'aimais pas trop, mais là, j'aime encore moins. Et donc, il a renforcé ses pouvoirs, notamment avec l'holocroncite, hein, qu'il avait trouvé. Et puis là, ils vont en fait, dans cet épisode, libérer Hondo Ohnaka dans une prison impériale, parce qu'il leur donne les coordonnées de vaisseaux de l'Empire, hein, en fait, où on apprendra par la suite qu'il y a des Y-Wing. Et donc, Hera va envoyer Ezra, Sabine, Zeb, Chopper, Rex et Hondo à bord du fantôme pour essayer de choper ces Y-Wing. Et puis ils vont faire face du coup au gouverneur Price, et qui va aller solliciter le Moff Tarkin, pardon, pour lutter contre les rebelles. Et Tarkin va lui envoyer justement un des plus grands stratèges de l'Empire, le Grand Bleu, le Grand Amiral Thrawn. Et donc du coup, il va leur donner des renseignements précis, hein, et il va découvrir le plan des rebelles. Et puis pendant ce temps, on a de l'autre côté Kanan qui est tout seul et qui va aller rencontrer donc sur la planète Atollon un Bendu. Et donc c'est une créature, hein, dont on avait déjà parlé dans la précédente émission parce qu'elle nous avait été présentée. C'est une créature de force, on va dire. Hein, ça donne un petit côté spirituel, un petit côté épisode 5, et qui est poussé plutôt par le côté lumineux, et qui va expliquer à Kanan qu'il a un conflit en lui, etc., et qui va l'amener à résoudre son conflit intérieur, et va lui demander de lui redonner l'holocron Sith pour se débarrasser de ce problème-là. Pendant ce temps, ben, on a le fantôme avec tout ce petit équipage qui va sur la planète Yharma pour retrouver les Y-Wing, hein, dans une base de l'Empire. Ils vont aller récupérer donc ces fameux Y-Wing, malgré un piège que leur tend l'Empire. Une fois le combat, alors voilà, je vous le fais en mode rapide, hein, pour qu'on passe plus dans les commentaires. Quand ils vont revenir, donc Ezra bien sûr va un peu chambouler le plan parce qu'il va vouloir en faire un peu plus que ce qui était prévu dans le plan, malgré le piège qu'il y a. Et quand il va rentrer, Ezra donc va s'excuser auprès d'Hera parce que du coup ils vont perdre le fantôme. Et il aura utilisé l'holocron Sith, donc ça c'est pas très bien. Donc il est pardonné par ses amis. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble du scénario, hein. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qu'il faut noter surtout, c'est que cet épisode, il marque la première apparition des Y-Wing, en fait, dans la série. Et c'est justement ces fameux Y-Wing qui vont être utilisés par le général Dodona et qui vont permettre d'attaquer l'étoile noire dans un nouvel espoir. Donc ça nous fait un lien encore une fois avec les films et c'est assez intéressant. Mesdames et messieurs, je vous propose de me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode, allez-y.
Enfin, moi j'ai plutôt été déçu parce que je trouvais que on avait vraiment fini la saison 2 un peu sur les chapeaux de roue, même si la toute fin, ça a été évoqué dans le Star Wars Rebel qui correspond à la fin de la saison 2, était peut-être un petit peu décevante parce que on voit pas vraiment la fin d'Ahsoka et que potentiellement elle est peut-être vivante, tout ça. Mais là, je trouve que ça redémarre un peu doucement, quoi.
Tout à fait d'accord.
Il n'y a que l'intro, genre, qui est vraiment chouette. Les quelques premières minutes. Et après, ouais, je suis du même avis.
Ouais, pareil. C'est comparé aussi au début et aux fins de saison précédentes, où les doubles premiers épisodes étaient quand même assez très bien. Là, je trouve que c'est une histoire un peu basique pour une reprise surtout, comme dit Céline, sur un final pareil. Là, ça fait on les retrouve 6 mois plus tard. C'est une mission quand même un peu trop basique. Ils nous remettent encore en dos alors qu'il devrait mourir celui-là.
Et qui nous fatigue quand même. Je trouve qu'il décrédibilise en plus le sérieux de la série, quoi.
Ça fait partie des personnages fétiches du réal, mais c'est des personnages qui sont chiants, quoi. Donc ouais,
c'est un peu un chargeur. Je suis l'américain l'aime bien, mais après je suis plutôt du même avis, ouais. Mais d'une manière générale, j'ai l'impression qu'ils commencent genre leur pilote avec un épisode de remplissage. Déjà, je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas eu beaucoup de monde qui l'a regardé, c'est parce que beaucoup ont été déçus du final de l'année dernière. Et ils doivent le savoir, donc ils devraient se dire il faut qu'on commence avec un épisode fort pour ramener à nouveau de l'audience. J'ai pas l'impression qu'ils aient réussi du tout.
Pourtant, il y a des trucs pas mal, hein. La nouvelle façon de penser d'Ezra, le Bendu et les doutes de l'aveugle, le trône, mais tout le reste s'est noyé en fait dans un épisode lambda.
C'est la trame principale en fait qui est décevante. Mmh. Ouais. Après, même sur Azra, on le voit mûrir, on voit qu'il prend la direction de l'équipe, on voit que il a le côté obscur, il tire à balles réelles, il fait du mind trick, et puis à la fin, ça tombe à l'eau, Kanan lui fait la leçon, et puis ça y est, c'est fini. Et là, on se dit, toute la saison 3, il va rien avoir avec le côté obscur, finalement, c'était, tout ça, c'était pour nous appâter, nous dire, oui, la série va aller vers quelque chose de plus sombre, de plus adulte. Et en fait, non, c'est terminé en un double épisode.
Mais tu trouves vraiment que Ezra, il a changé ? Je suis le seul à penser que c'est exactement le même avec une nouvelle coupe de cheveux et qui peut-être
c'est le même petit con. Il est juste un petit peu plus en colère par moment.
Non, mais dans les deux premières saisons, on n'avait pas de mort. Il utilisait son rayon paralysant. Ouais. Là, il fait du mind trick. Il tire à balles réelles. Il y a une évolution quand même, mais je suis pas sûr que ça perdure.
Je trouve que la seule évolution, c'est juste qu'on lui donne plus de responsabilités, mais que lui, à son niveau, il n'a absolument pas évolué.
Il prend aussi beaucoup de responsabilités. Au moment où ils vont faire l'assaut et qu'il essaye de prendre le leadership et qu'il change tout le plan, finalement, même si ça fait des conneries, ça monte quand même. Enfin, moi, je trouve qu'il... Ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est que, certes, le scénario, il est pourri, mais on sent une évolution au sein du groupe, c'est-à-dire qu'on nous montre, avant c'était comme ça, et maintenant on sent que il y a une inversion des rôles, c'est-à-dire que Ezra essaye de prendre le leadership de l'équipe, Kanan est un peu mis en retrait finalement, alors que il en imposait plutôt dans les épisodes précédents. On sent des rôles qui s'inversent. Pour ça, j'ai trouvé bien, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de bonnes idées, notamment le Bendu, qui était un truc qui faisait partie des concepts en fait des trilogies originales, hein, la bestiole de force, on avait parlé dans le précédent épisode, donc on va pas revenir dessus. L'introduction des Y-Wing, il y a pas mal de bonnes idées. Il y a l'arrivée du Grand Amiral Throne qui nous est bien amené, donc il y a pas mal de bonnes idées, il y a plein de trucs bien. Le seul problème, c'est que le scénario il est pas solide, quoi. On s'emmerde en fait, il y a des longueurs.
Il y a plein de bonnes idées, mais les amène n'importe comment.
Exactement, voilà, c'est ce qu'on trouve.
C'est une très bonne idée, mais on le voit quasi pas. Pareil d'ailleurs dans le reste de la saison, on le voit ne serait-ce
que. C'est l'ennemi dont on entend parler, mais tu le vois.
Pas de spoiler, les gars, j'en suis pas à l'épisode 9
sur ça.
Donc, est-ce que vous voulez rajouter d'autres éléments ou est-ce qu'on met la note déjà ?
Non, j'aimerais rajouter un truc, moi.
Vas-y.
Je vais revenir sur Kanan. Déjà, là aussi, pour moi, il y a des défauts scénaristiques énormes. D'où il envoie tout le monde sauf lui. Parce que lui, il doit aller voir un Bendu qu'on ne sait même pas d'où il sort. Le truc, il est immense. Il n'a jamais été vu par personne. Le Bendu, en une heure, il lui a appris tout ce qu'il devait savoir. Et après, Kanan, ça devient genre un surhomme direct, quoi. Non, moi, je trouve que c'est juste une solution de facilité. Qu'ils ont envoyé Ezra d'un côté faire une connerie. Et encore, pareil, il prend des responsabilités.
Il n'avait pas prévu d'aller le voir, le Bendu. Il n'avait pas prévu. Il tombe un peu dessus par hasard, non ?
Je me souviens plus très bien, mais je crois que Kanan il reste tout seul en arrière et qu'après il rencontre le Bendu ou un truc comme ça.
Oui, mais il allait pas là-bas pour le rencontrer. Je crois qu'il a besoin de faire le point sur lui-même, Kanan. C'est plutôt ça. Parce que justement, il s'en veut des conneries qu'il a fait, dont il s'accuse, et que du coup, il est dans une phase un peu de travail sur lui-même, et il tombe sur ce Bendu parce que, comme toujours, c'est la force, quoi, on va dire, hein.
Non, pour moi, c'est juste parce qu'il est pas content, parce qu'il a perdu les yeux et que il est. Tiens, à ce propos, le masque qu'ils lui ont collé, moi j'aime pas. Hein. Je préfère encore qu'il ait rien ou qu'il ait juste un bandeau, mais là, l'espèce de couvercle à salade.
Non, moi j'aime bien.
Il me dérange pas non plus.
Non, mais quelque part, à la fin de l'épisode, on est revenu à la situation d'avant. C'est-à-dire que. Au début de l'épisode, on a eu une évolution. Ezra prend des responsabilités, Kanan prend du recul avec la force. Et à la fin de l'épisode, Ezra s'est planté, donc finalement il va plus reprendre de responsabilités. Et Kanan, il a retrouvé la vue, pas vraiment, mais en fait,
c'est plus
dans
le reste
de la saison, il est plus vraiment aveugle. Quoi. Donc,
Tout ça en un épisode.
C'est magnifique quand
même. Elle est forte, hein, la force, pour tout rétablir d'un seul coup.
Ouais, pour rétablir les scénaristes dans leurs petits chaussons habituels.
Ouais, ils veulent pas bouger
leur confort.
C'est un épisode
qui n'avance pas vraiment. on a fait le tour. Vous nous donnez un petit commentaire final avec une note. On commence par Céline.
Bah, moi je mettrais 12 parce que il y a quand même quelques trucs pas mal. Il y a le fait qu'ils perdent le fantôme, le fait que le Bendu. Je lui laisse quand même pas une trop mauvaise note.
Jérémy ?
Moi je suis à 13 pour l'intro et les bonnes idées amenées et l'espoir que ça donne pour le reste de la saison. Mais je reste très déçu de la mise en arrière aussi de certains personnages. Je sais pas s'il y a que moi qui pense ça, mais d'ailleurs je le dis là, mais c'est valable pour tous les épisodes.
À peu près d'accord.
Zeb, il est invisible. Moi j'en suis à 6.
Allez pas trop loin les gars, on reste sur cet épisode là. Hein. On part pas trop sur les autres.
Tu l'as vu Zeb ?
Ah non, je pensais que tu parlais sur l'ensemble de la saison.
Bah, je te parle aussi de l'ensemble de la saison, mais...
Ouais, mais allez pas trop loin dans les épisodes. Faut qu'on s'arrête au l'épisode 3.
Hein. Ok, bah jusqu'à l'épisode 3, ça marche aussi.
D'accord, ça marche. Oui, mais dis-le pas pour la suite, ça me spoil sinon.
D'accord.
Ce que je veux dire. Sylvain ?
Eh ben moi, je vais être encore plus sévère, je vais mettre un 10, parce que effectivement, il y a de bonnes idées. Mais c'est noyé dans un scénario basique. C'est un gros épisode basique avec quelques bonnes idées qui rattrapent l'ensemble.
Mmh. Bon, moi, je suis comme vous. Hein. J'étais très impatient de commencer cet épisode, surtout sur les gros les doubles épisodes comme ça. J'ai trouvé des très bonnes idées. J'ai beaucoup aimé l'histoire là, avec le Bendu, etc. J'ai bien aimé les Grey Wing. Le côté Ezra qui déconne. Ah oui, et on a vu un Ugnaut, ça, j'ai trouvé cool aussi. Mais sinon, on dépassera pas le 12 quoi, parce que malgré ces bonnes idées, c'est assez mal amené et je me suis un peu fait chier. Donc voilà pour ce qui est de cet épisode. Donc on arrive à peu près à une moyenne de à peine 12.
Ça aurait peut-être été mieux. Ouais.
Exactement. Donc on arrive à peine 12 si on fait une moyenne des 4. On passe maintenant à l'épisode 1. Tel qu'il était en dehors de l'épisode spécial qui s'appelle The Holocron Fate et qui a été traduit bizarrement en français par L'Épreuve du Destin. Bon, allons-y. Il a été diffusé aux États-Unis le 1er octobre 2016 et en France le 13 novembre 2016, donc deux jours après qu'il soit passé le 11 novembre, donc c'était d'ailleurs le premier dimanche qui suivait. Les audiences ont été assez faibles pour cet épisode que pourtant j'ai trouvé meilleur. 412 000 téléspectateurs aux États-Unis. On parle de la première diffusion uniquement. Rapidement, le résumé, on a Ezra et Kanan qui sont dans une corvette corélienne, qui se rendent à un rendez-vous. Le problème, c'est qu'une fois sur place, le ravitailleur est endommagé et ils apprennent par un rescapé qu'une lame rouge est à la poursuite de l'équipage du Ghost. Donc lame rouge, on se dit, eux, ils pensent que c'est tout d'abord un nouvel inquisiteur, mais en fait, ils se rendent compte que la menace, elle est bien là et que c'est Dark Maul et non pas un autre inquisiteur, donc que Dark Maul est toujours vivant. Dark Maul, lui, souhaite récupérer l'Holocron Site et il nous montre qu'il a récupéré tout le reste de l'équipage, qu'il l'a fait prisonnier et il propose un échange de l'Holocron Site, également l'Holocron Jedi, contre la vie de l'équipage. Donc, Kanan il est forcé de retourner sur Atollon et de récupérer donc du coup son fameux holocron. Donc là, se repointe à nouveau les super araignées qui étaient inspirées des concepts de Ralph McQuarrie. Et il récupère le fameux holocron site. Après un petit tour d'action. Le Bendu leur indique quand même que le conflit intérieur de Kanan est terminé. Qu'il les met en garde sur la dangerosité en gros des deux holocrons, c'est-à-dire en gros ça sous-entend que le cumul des deux holocrons peut faire un danger. Donc on sait pas où ça mène, on comprendra à la fin. Pendant ce temps, on a Maul en fait qui accueille Kanan et puis Ezra. Donc là on a notre fameux Dark Maul là qui essaye de faire un sale coup à Kanan et de le balancer dans l'espace. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué la force de Kanan qui est balancée dans l'espace. Je me suis dit, attends, comment ça se fait qu'il crève pas avec le froid de l'espace? Ils nous l'ont quand même ramené. Je sais pas si vous avez vu, quand il fait la force pour revenir dans le vaisseau, ils l'ont gelé un peu sur le côté, quoi. Mais voilà.
Ah, et qui respire dans l'espace, ça te choque pas, toi?
Non, il a pas respiré, il a pris sa respiration. Donc,
il est fort, on te dit.
Et voilà. Et il revient là à moitié gelé. On a à nouveau un tour de passe-passe parce que finalement l'équipage du Ghost se libère et finalement réussissent à se retourner contre Maul. Donc du coup ils arrivent finalement à triompher de Maul. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe encore? Ben voilà, après, donc du coup, ils réussissent à s'échapper, sauf qu'entre-temps, Maul et puis Ezra combinent les deux holocrons, à savoir l'holocron Sith et l'holocron Jedi, et puis ce que le Bendu leur avait dit de ne surtout pas les mélanger, ils le font. Et à ce moment-là, on a un espèce de méga schisme qui se passe, et ils voient des choses plus profondes qu'ils n'avaient pas vues. Parce que je crois que le holocron Jedi, c'est le holocron de Kenobi d'ailleurs, c'est celui qu'on voyait au début. Et donc du coup, on a des indices en fait. Et alors, les indices, par contre, j'ai trouvé ça très intéressant. Et on nous parle d'un type qui est encore vivant, donc que visiblement Maul déteste. Donc on se dit tous que c'est Obi-Wan Kenobi. Parce que pour qu'il dise il est encore vivant avec autant de réjouissance malveillante, c'est que a priori c'est vraiment un type qu'il aime pas. Et s'il y a bien un mec qu'il aime pas, a priori c'est lui. D'autant plus qu'on pense que tous les Jedi sont morts. Et puis il nous parle aussi de deux soleils jumeaux. Donc on peut penser à Tatooine, ça tombe bien puisque Obi-Wan est sur Tatooine. Et Maul réussit à s'échapper et part en gros en quête, on suppose, de Obi-Wan Kenobi. Moi je pensais que dès le deuxième épisode on allait voir l'affrontement entre Maul et Kenobi, mais visiblement c'est pas encore pour tout de suite. Me dites pas surtout ce qu'il y a après l'épisode 3, je n'en sais rien. Et donc finalement tout le monde rentre au bercail et l'épisode se finit ainsi quoi. Et ça laissait penser que on est allé avoir Maul contre Obi-Wan, mais non. Je vous écoute pour vos critiques et puis moi je vous donnerai mon avis après. Allez-y.
Bah vous allez rire, mais je pense que je l'ai pas vu celui-là. Je bon, pense que j'ai sauté.
Ça c'est fait. Je pense que tu t'en serais rappelé quand même. Oui. Bah les autres, allez-y. Merci de ton avis, Céline.
Rigole pas, même cas de figure que Céline.
Non mais vous foutez de moi ou quoi?
Eh bah non. Ça me dit rien du tout cet épisode-là.
C'est incroyable. Tu l'as vu au moins toi? Ou alors vraiment je deviens fou quoi? Ou alors j'ai fait un rêve réel? Jérémy, rassure-moi quoi, parce que.
Mais non, je rigole. Ouais, je l'ai vu.
Là, franchement, je commence à me poser des questions quoi.
Non, j'ai été voir sur Wikipédia, je te confirme, il y a bien un résumé.
D'accord.
Ouais, l'épisode existe, mais je l'ai pas vu.
Ah bah, c'est con parce que moi je l'ai trouvé vachement bien.
Ouais, il est
alors,
mieux.
Jérémy, vas-y, on va voir si on vous donne assez envie pour aller le voir. Vas-y, Jérémy.
Je l'ai trouvé mieux dans l'ensemble parce que déjà c'est pas un épisode de remplissage, il se passe vraiment quelque chose qui donne une idée pour la suite. Après ton résumé forcément il est bon, il n'y a pas grand chose à dire de plus si ce n'est qu'en effet on attend la rencontre avec Kenobi. Je ne sais absolument pas si ça a été confirmé qu'il y en aura une ou pas.
De rencontre?
En tout cas, ouais.
Bah, moi j'essaye de pas me spoiler donc je sais pas ce qui se passe dans les épisodes suivants, mais c'est évident. Et en plus, Kenobi, ils l'ont déjà modélisé pour l'holocron, vous savez, dans le tout premier épisode de Star Wars Rebels, épisode spécial, on le voyait à la fin de l'holocron en train de parler, donc il est déjà modélisé, ils n'ont plus qu'à le reprendre. Hein. Puis généralement, ils ne s'emmerdent pas pour reprendre des personnages, hein. C'est pas ça qui va les arrêter.
Oui, c'est sûr. Après,
donc, c'est certain qu'il y est dans la saison 3.
Quelques trucs, moi, qui m'ont un peu, pas énervé, mais quand ils disent « oui, une lame rouge », il n'y a que eux qui pensent à un nouvel inquisiteur. Je pense que c'était assez évident pour tout le monde que ça allait être Maul. Le fait que Kanan il soit tranquille en deux.
Ah non, parce qu'il pense qu'il est mort.
Ah bah il y a que eux qui pensent qu'il est mort alors.
Ah mais oui, ils sont dans la vraie vie, nous on regarde une série quoi.
Ouais.
Ils ont vu le temple s'écrouler bon, tu vois.
Ouais.
Bon, vas-y, continue.
Pas convaincu. Mais après non, la fin m'a beaucoup plu avec en effet les deux holocrons qui s'assemblent. Je trouve que aussi même graphiquement parlant, c'est une très jolie scène, très bien filmée que ça soit quand Kanan il enlève son masque pour repérer les silhouettes ou enfin toute la fin m'a vraiment plu et c'est ce qui pour moi a éclairé l'épisode.
D'accord. Bon, t'as terminé du coup, je peux donner mon opinion.
Vas-y.
Alors moi j'ai adoré cet épisode, j'ai trouvé vraiment génial, j'ai retrouvé un peu l'excitation que j'avais pendant les épisodes avec les clones où t'es hyper hypé en fait et donc j'étais content de revoir Maul finalement, maintenant je trouve qu'il passe bien dans ces trucs là donc finalement au début je gueulais un peu de le revoir puis finalement je suis très content. J'ai accepté que le personnage faisait encore partie du truc et de plus en plus j'aime bien le revoir. Donc ça j'ai trouvé bien. L'histoire des holocrons, pareil, j'ai adoré. Et vraiment mon très bon souvenir, à part quand Kanan revient, quand il part dans l'espace, je me dis oh non là les mecs ils craquent. Et ils l'ont commencé de le geler un peu. À mon sens, on en a discuté tout à l'heure. Il prend sa respiration et il se dépêche de revenir à l'intérieur du vaisseau avec la force. Et on le voit geler. Je dis heureusement, on le regarde en plus en famille. Et j'ai dit à mon ami heureusement qu'ils l'ont. Ils ont commencé à lui geler les mains et tout parce que sinon ça voulait dire que dans l'espace il fait 25 degrés que tout va bien quoi. Donc là c'était quand même le minimum syndical à proposer. Après sur l'histoire de il n'y a pas d'air, on est d'accord, mais pour moi, comme il n'est pas resté longtemps, il pouvait très bien avoir pris sa respiration. Et l'autre truc que j'ai vu et que j'ai adoré, c'est vraiment comme ce que tu dis au moment où ils sont sur les holocrons, et qu'il y a plein de petites, il y a plein d'indices qui sont donnés. Il y avait donc les soleils jumeaux, il y avait le fait qu'il y a un mec qui est toujours vivant, etc. Et en fait, quand on a regardé l'épisode, on était les quatre à le regarder, donc il y avait mon ami et puis mes deux enfants. Et chacun a retenu en fait un élément, et l'épisode s'est terminé. Et pendant qu'il se terminait, on commençait déjà à faire des pronostics. L'épisode s'est arrêté et on a comparé nos points de vue. Et mes enfants, ils m'ont dit ah bah c'est Tatooine. Alors c'est ma fille, elle dit ah bah ça doit être Tatooine. Donc ok. Moi j'ai dit ah ouais, les soleils jumeaux. Alors après on a commencé à dire ah c'est peut-être Luke. Après d'autres mon amie elle m'a lancé sur un autre thème. Puis après m'a dit ah mais non mais pourquoi. Puis après du coup on a dit oui mais attends, t'as vu Dark Maul, il le connaît, donc Dark Maul il connaît pas Luke, ouais, mais en même temps il a l'air content de le retrouver, c'est un mec qu'il aime pas visiblement. Donc tu vois, on a fait ce cheminement, cette réflexion. Bon, c'est pas non plus c'est pas un grand mystère, mais rien que le fait ces petits indices de te questionner, ça nous a hypé pour la prochaine fois. Puis après en discutant sur pendant le générique, on dit bah ouais, bah ça doit être Obi-Wan Kenobi. Alors ma fille elle fait oh génial, on va retrouver Obi-Wan et tout. Ah oh, mais ils se sont déjà battus, donc ils vont se rebattre. Et quand t'es dans ces genres de trucs, c'est ce qu'on appelle un bon cliffhanger. Franchement, ça faisait envie. C'est juste que l'épisode d'après, bah on n'a pas eu Dark Maul quoi. Donc j'étais un peu déçu.
Il y a juste déçu sur celui d'après, mais pas sur celui-là.
Bah du coup, déçu voilà de pas avoir Maul derrière. Et mais je m'en suis un peu douté parce que je sais plus, j'ai dû envoyer un texto à Loïc en disant bah oui, j'ai vu l'épisode, j'imagine qu'il va y avoir Obi-Wan dans le prochain. Et au lieu de me dire ah tu verras. Il m'a sorti un truc du genre ah oui j'espère toujours, et comme je savais qu'il l'a regardé en VO, je me suis dit ah ben non, à mon avis c'est niqué pour Obi-Wan pour la prochaine quoi. Donc Loïc, comme tu m'entends comme tu vas nous écouter j'imagine, fais gaffe la prochaine fois, vas-y doucement quoi, n'oublie pas que j'essaye vraiment de zapper, mais c'est pas un reproche quoi. C'est toujours agréable d'échanger après ces épisodes et de partager les éléments qu'on a là-dessus. Donc voilà, un très bon épisode, mais bon, ça nous laisse entendre que Obi-Wan va revenir dans un des autres épisodes. Ne me dites pas s'il est parvenu dans les prochains. Voilà, donc je l'attends vraiment, ce Maul Obi-Wan. Et qu'est-ce que Maul pourrait bien pouvoir dire à Obi-Wan quand il va le retrouver voilà.
Il pourrait mourir.
Est-ce qu'on vous a fait envie les deux là, cet épisode
le résumé donne envie. Je pige pas pourquoi je l'ai pas, je l'ai pas vu.
Céline.
Oui, ça donne envie, surtout que, voilà, comme on disait, le premier épisode n'est pas terrible, donc si celui-là est bien,
ça compensait en fait, tout à fait.
À côté, quoi.
Et moi, je m'étais vraiment dit après l'épisode pilote, oh merde et tout, ça va être mou tout le long. Et puis celui-là, hop, il m'a hypé à nouveau sur la série, je me suis dit, ouf, on en a un bon là, c'est bon, ça y va, c'est bien parti. Et ça m'a rassuré. Jérémy, tu mettrais une note à cet épisode ?
Là, je suis bien à 15 pour celui-là. Et la fin m'a vraiment plu. Graphiquement ouais. Comme dans l'histoire, et elle tient la route, et pour une fois je me suis pas ennuyé.
Eh ben écoute, nous sommes totalement d'accord pour la note, donc je vais même pas en discuter. On passe à l'épisode suivant, donc qui est l'épisode 2, qui en anglais s'appelle The Anti-S Extraction, donc l'extraction anti-S, mais qui a été traduit en français, Cadet en danger. C'est dommage parce que le titre valorise justement l'élément intéressant qui est l'arrivée d'anti-S chez les rebelles. Et je trouve dommage qu'ils aient renommé le titre, enfin, l'épisode. Aux États-Unis, il est sorti le 8 octobre 2016 et en France seulement le 20 novembre 2016. Il a fait 510 000 spectateurs. Il avait été teasé justement avec l'arrivée de Wedge Antilles. Et du coup, rien que le teasing de ça leur a donné un quart de spectateurs en plus, quoi. Donc 100 000, plus de 100 000 spectateurs en plus. Rien que parce que, à mon avis, enfin, c'est mon analyse, hein, parce qu'il y avait Antilles dedans.
Donc l'épisode aussi, je pense.
Peut-être qu'aussi, oui, ça a pu jouer aussi, tout à fait.
Ça a boosté donc les audiences.
Ouais, parce que peut-être que tout le monde comme moi s'est dit génial, on va voir Obi-Wan, et puis bah non.
Et loupé.
Donc l'épisode en fait, il commence en fait avec la destruction d'un convoi rebelle par des intercepteurs Thaï. Faut noter que les intercepteurs Thaï, c'est la première fois qu'on les voit dans la série. D'accord, donc c'est une Thaï un peu plus costaud quand même. Vous étiez content de les revoir ?
Ouais.
Rien à foutre.
Donc après avoir été mis au courant justement de la perte du convoi, les rebelles reçoivent des informations importantes et ils apprennent que des cadets de l'académie, donc l'académie de pilotage Skystick, seraient prêts à rejoindre la rébellion. Donc du coup ils se disent génial. On remarque que c'est un truc qui revient souvent dans Star Wars, dans l'univers légende d'ailleurs. Han Solo avait été à l'Académie impériale et était devenu un rebelle par la suite. On avait également Bix Darklighter qui avait fait son école à l'Empire, sur l'Empire, et qui était devenu un rebelle. Il y en avait plein qui avaient commencé leur formation là-bas et qui sont revenus après. Donc Ezra et Kanan restent en retrait, non loin de l'Académie, au cas où il y aurait une extraction. Et finalement, c'est Sabine qui se lance. Et qui va en mission pour aller rechercher ses cadets, qui sont donc Gary, Obi et donc Wade Gentilles. Ce qu'il faut noter, c'est que Ezra veut y aller et puis on lui refuse et finalement c'est Sabine qui y va et que Ezra a peur pour elle, etc. Donc il est toujours un petit peu amoureux d'elle.
Il est amoureux.
Je sais bien que c'est le truc qui te plaît, toi, les histoires d'amour dans Star Wars.
Ouais, grave.
Donc, pendant ce temps, on a l'agent Kallus, donc qu'on retrouve à nouveau. Hein, on l'avait pas trop revu depuis le fameux épisode avec Zeb. Et l'agent Kallus et le gouverneur Price arrivent à l'école des Thaï. On a Sabine qui arrive justement. Elle manque de se faire détecter, donc il nous met un petit coup de suspense. Hein, est-ce qu'elle va se faire avoir ou pas? Puis bon, bah, finalement, elle passe. Et donc, à l'intérieur, donc Sabine va contacter justement nos trois potentiels recrues pour devenir des rebelles. Et à un moment, on a Kanan et puis Ezra qui font une petite attaque, je crois, c'est ça. Hein, j'ai un petit trou là. Enfin, il y a un moment où, alors du coup, tiens, j'ai perdu mon truc. On a un moment où on a un petit problème au sein de la rébellion et je crois que c'est une attaque des rebelles, et donc du coup Sabine se dit voilà, c'est le bon moment, elle va chercher donc les trois recrues et les emmène avec elle, donc voilà, c'est vraiment pour le résumé rapide, ce qui se passe, c'est que ils sont arrêtés au milieu par l'agent Kallus, donc c'est ça, c'est le grand moment de l'épisode, et en fait on se dit bah voilà, Kallus, qu'est-ce qu'il va faire, et on s'est tous retrouvés, voilà, on s'est dit bah voilà, ils vont retrouver Kallus, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va devenir rebelle, est-ce qu'il va les planter. Et en fait, je trouve que ils ont trouvé juste l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il se met devant. Ça aurait été un peu too much de le voir passer du côté des rebelles. Il leur dit, bah, je vous laisse passer. Et Sabine lui dit, mais pourquoi je devrais vous croire? Il leur donne le bon passage à prendre. Et elle lui dit, pourquoi je devrais vous croire? Et il lui parle de la dette qu'il a auprès de Zeb. Et j'ai trouvé que ce personnage de Zeb, et d'ailleurs, ça fait lien à l'épisode où Zeb et puis Kallus se retrouvent dans cette espèce de grotte où ils s'entraident, on sent une certaine le personnage de Kallus est très intéressant parce qu'il est pris justement entre une espèce de dette d'honneur envers Zeb, sa moralité et son intégrité vis-à-vis de l'Empire, et on sent qu'il est tiraillé entre les deux, et j'ai trouvé que c'était vraiment le juste milieu à donner, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien vu de ne pas en faire trop ni dans un sens ni dans l'autre, et donc du coup on sent vraiment une continuité de la saison et de l'évolution des personnages, et là j'ai trouvé ça vraiment bon. Donc ensuite, les trois rebelles décollent l'académie, donc à bord d'un bombardier Thaï, et qui est sévèrement endommagé, mais du coup ils arrivent à s'échapper justement parce qu'ils donc ils sont secourus du coup par Ezra, etc. Et donc ils finissent par quitter le système et ils retournent sur Atollon, et Sabine présente donc Wedge et Obi au commandant Sato, qui les accueille du coup avec plaisir dans la rébellion. Une petite note, en dehors de Wedge qui arrive pour la première fois et des intercepteurs Thaï qu'on n'avait pas encore vus, on nous révèle une information qui est assez précieuse, et on nous dit que, parce qu'il nous parle de Fulcrum, et à un moment, au début de l'épisode, je crois que c'est Ezra qui demande, mais Fulcrum, mais c'est Ahsoka, donc elle est toujours vivante. Donc, et ils nous disent, ben non, parce qu'en fait, Fulcrum, c'est pas forcément le nom de code uniquement d'Ahsoka. Fulcrum, c'était tous les informateurs de la rébellion. Et c'était Ahsoka qui avait proposé l'idée, mais en fait il y a d'autres Fulcrum, un petit peu comme il y a d'autres Inquisiteurs, et en fait on apprend que Fulcrum c'est pas forcément le nom de code précis d'Ahsoka, mais c'est bien lié à l'ensemble en fait des informateurs de la rébellion. Vas-y Sylvain.
Non, j'allais compléter ta phrase, c'est tout.
Eh ben vas-y, donne-nous ton avis pour commencer, tiens.
Ben moi je l'ai bien aimé celui-là, je crois que c'est mon épisode préféré pour le moment, parce que ça change un peu, même s'il y a des gros raccourcis et autres, mais le fait que ça se passe... chez les impériaux, c'est ouais, j'aime beaucoup celui-là, et puis comme tu disais, j'aime les réactions de Kallus dans cet épisode, j'aime bien ce qu'ils en ont fait, j'aime bien la façon dont il les laisse partir, ça montre quand même que c'est pas juste un impérial lambda, c'est quand même un mec qui au moins a évolué en un un soldat avec un certain sens de l'honneur, et moi ça me plaît ce truc-là.
Les autres, tu l'as vu Céline celui-là ?
Ah ouais, je l'ai vu. Moi je serais un peu plus difficile. Je trouve que le scénario est un petit peu facile. Sabine, oui, ils mettent un petit peu de suspense sur ce qu'elle va se faire découvrir, mais finalement, pas grand-chose. Elle trouve assez facilement quels sont les cadets prêts à s'engager. Enfin, tout ça, ça me semble le scénario assez facile. Et finalement, ce que j'ai bien aimé, c'est comme Sylvain... Le fait que l'agent Calus, voilà, il est pas si manichéen que ça, il a gagné un petit peu en profondeur, comme il avait déjà gagné en profondeur avec l'épisode avec Zeb. Le fait qu'on nous montre aussi un petit peu la formation des pilotes, ça c'est aussi intéressant, de voir qu'on leur apprend à devenir un peu sans pitié. Mais sinon, je trouve que ça manque un peu de rythme.
Jérémy?
Bah, moi, c'est un épisode qui m'a fait ni chaud ni froid. Donc, un peu entre Sylvain et Céline. Sabine est un personnage que j'adorais dans la saison 1 et que j'ai détesté dans la 2. Alors, du coup, j'abordais l'épisode avec une réticence quand même. Et puis, je trouve que bon, l'épisode il est fait pour mettre Sabine en avant. Mais c'est un peu con de la mettre en avant comme ça, mais en avant pour ce qu'elle sait faire, elle déjà par ses origines, tu peux la mettre en avant, tu peux la mettre aussi en avant par rapport au fait qu'elle trafique plein de trucs. Là, elle a un rôle qu'aurait pu avoir Ezra sans souci, qui est peut-être même la caractéristique première d'Ezra, qui elle se faufilait un peu partout. Donc pour moi, c'était aussi une certaine facilité de la mettre elle, en disant bon, on la met pas beaucoup en avant, on va la mettre sur celui-là. Après, ça m'a pas dérangé, elle m'a même plutôt plu sur l'épisode. Mais c'est, pour moi, c'est quand même un petit peu réchauffé dans le sens où, bah, ouais, une infiltration, on en a vu quand même pas mal. Et après, même s'il y a une bonne surprise de voir la réaction de Calus et l'arrivée de Wedge and T, j'ai pas regardé ma montre, mais j'ai pas adoré non plus, quoi.
D'accord. Alors, moi, me concernant, bah, un mix de vous tous, j'ai trouvé qu'effectivement, l'épisode n'était pas hyper original. En revanche, ce que j'ai beaucoup apprécié, donc, bah, déjà la période l'arrivée de Wedge and T.S., ça j'ai trouvé sympa. Mais surtout, la grosse plus-value de l'épisode, c'est vraiment cette scène, d'ailleurs c'est pas pour rien que je l'ai décrite en détail, la scène où il rencontre l'agent Calus, et là j'ai trouvé vraiment ça cool pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. Alors je vais ouvrir le bal en donnant une note, moi je lui mettrai entre 13 et 14. Les autres ?
Ouais, moi pareil, un 13-14.
Céline ?
Un petit 11.
Et Jérémy ?
12. Et j'espère vraiment que l'agent Calus va évoluer et pas que c'est juste un clin d'œil à la saison 2, quoi.
Ouais, donc ça nous fait une note de moyenne à peu près de 12,5, quoi. Donc voilà pour ce qui est de ce premier épisode, enfin ce deuxième épisode. Et puis nous allons terminer notre émission avec l'épisode 3 qui s'appelait Heroes, les héros des rats, et qui a été traduit en français, d'ailleurs je trouve que c'est pas super judicieux, par le culte des ancêtres, on comprend pourquoi, mais bon, je préférais le titre d'avant.
Ouais, non, mais cherche pas, les traducteurs français, ils font un peu n'importe quoi avec les titres.
Il est sorti aux États-Unis le 15 octobre 2016 et en France le 27 novembre 2016, et il a fait 403 000 spectateurs, donc on voit tout de suite que hop, il redescend en termes d'audience. Pourtant, enfin moi j'ai trouvé que c'était un épisode excellentissime. Alors, cet épisode se passe sur Ryloth, hein, dans les plaines désertes, hein, parce qu'il y en a beaucoup, hein. On rappelle que Ryloth, la principale végétation, se trouve au milieu de la planète, hein, là où on a un croisement, je sais pas quoi, équatorial, qui fait qu'il y a des arbres qui poussent et des forêts. Tout le reste, c'est principalement des plaines désertes avec des rocailleux, on va dire. Et on a
ça permet de faire des économies sur la conception tout à fait, des décors.
Exactement. Faut pas le dire ça. donc on a notre fameux Shamsindula et Numa. Vous savez, Numa, c'est la petite Twi'lek qu'on avait vue dans The Clone Wars, qui était secourue par les deux clones, hein, dans la première saison, qui monte des Blurgs. Vous savez, les Blurgs, c'est ces espèces de bestioles à deux pattes qu'on trouvait déjà à l'époque dans le film des Ewoks, le deuxième film téléfilm sur les Ewoks, je sais pas si vous en rappelez.
Je crois que je l'ai pas vu, ou alors j'ai.
C'est juste pour les références. Oh, un culte.
J'avais pas vu que c'était les mêmes.
Si, c'est les mêmes, ouais. Donc il y a pas mal de petites références qu'on retrouve, et donc ils sont originaires de Ryloth, c'est Blanc. Donc ils essayent d'échapper. Alors là, c'est là où j'ai trouvé ça hyper sympa, c'est qu'on a les motojets qu'on retrouve dans l'épisode 6 avec justement des Scootwalkers dessus. et donc ça c'est vraiment cool. Moi mon gamin a sauté de joie parce qu'il a des Scootwalker avec des motos comme ça, il a reconnu ses persos. Donc voilà, c'est peut-être l'aspect nostalgie, hein. Je suis en train déjà de vous donner mon avis quelque part en vous faisant le résumé de l'épisode. On a Numa qui se demande comment l'Empire en fait les a trouvés. Et Sham, il lui dit que depuis quelques temps, les impériaux anticipent un petit peu le mouvement. Donc ils réussissent à échapper en fait à leur poursuivant grâce à l'arrivée de Hera, donc la fille de Sham, Syndulla, et qui vient les chercher avec le Ghost. Donc du coup, il s'échappe et on apprend en fait de Sham Syndulla que l'Empire a bien investi Ryloth et qu'ils ont même pris la maison en fait, enfin la grande demeure en fait des Syndulla et que du coup même l'ensemble de la province, hein, la province qui s'appelle la province de Tan en fait. Donc c'est une espèce de ville fortifiée, hein, dans laquelle ils vont habiter. Et donc du coup, Hera se met à repenser à l'héritage en fait de ses parents en fait. Et donc Sham du coup lui il s'en veut un petit peu de pas avoir pu sauver leur ancienne demeure, y compris un petit truc qu'on appelle le Calicori. Donc moi j'en avais jamais trop entendu parler dans Star Wars. Donc c'est un espèce d'objet fétiche en fait qui traverse les générations, hein, et qui fait un peu penser à un espèce d'attrapeur de rêves, chose comme ça quoi. Et donc qui fait partie du culte des Twi'leks. Et Hera, donc elle dit que c'est quelque chose de très important pour sa famille. Et en plus, la mère de Hera est décédée, donc c'est le seul souvenir qu'elle a de sa mère. Donc elle a beaucoup d'affect avec ce Calicori. Et donc du coup, elle décide d'aller le récupérer. Donc du coup, elle se lance en fait avec Ezra pour pénétrer en fait la demeure. Et ils y arrivent assez facilement. C'est vrai que les Stormtroopers sont assez cons, on va dire. Et une fois ça change pas. Hein. Donc du coup, une fois qu'ils ont réussi à intégrer la maison, du coup, elle retrouve le Calicori. Sauf que, donc bien sûr, ils font un plan à la con. Hein. Bien évidemment, pour la 50e fois, on se déguise en Stormtrooper. Enfin non, là, ce coup-là, on se déguise en Scootwalker. Donc c'est mieux, hein. C'est plus original. Quand on a vu ça, on a dit oh, putain, ils nous refont encore le coup, quoi. Et donc Hera, qui est une Twi'lek, se fait passer pour une prisonnière rebelle. Donc, bien sûr, plus c'est gros, plus ça passe, donc ça passe. Et on a Chopper qui est peint en noir pour faire croire qu'il est un impérial, donc tout va bien, quoi. À ce moment-là, donc ils se font capter en fait par les Stormtroopers et le grand amiral Thrawn. Et alors au début, mais j'ai eu peur, parce qu'on voit l'arrivée de Thrawn qui est quand même vachement bien foutu. La voix, en tout cas en VF, est vraiment très bonne. Le prestige du personnage est présent. Donc là-dessus, on a vraiment aucun problème. Par contre, là où ça a commencé, la musique, pareil, quand il arrive, est géniale. Et là où ça a commencé à me piquer, c'est quand elle dit que c'est une Twi'lek en train de se promener et qu'il y a Ezra qui est même pas capté, quoi. Alors qu'on voit bien qu'il c'est un gamin dedans. Je me dis putain, mais c'est pas possible. Ils vont nous ruiner Thrawn. Ils vont le rendre trop débile, trop con. Donc je me disais, mais putain, mais c'est du gâchis. Je commençais à m'énerver. Et en fait, on le voit commencer à regarder un peu le tableau. Et là, on commence à faire des passages d'yeux en fait entre Hera et le tableau. Il regarde autour, il est très calme, il est très posé. Puis en fait, il exprime petit à petit. Il va montrer par un questionnement à Hera qu'il a très bien compris qu'elle se foutait d'elle depuis le début. Et il ordonne à ses Stormtroopers de la choper. Donc c'est ce qui se passe. Et à ce moment-là, on a Ezra qui arrive. Puis je me dis putain. C'est pas possible, il voit pas Ezra, mais en fait il l'avait bien évidemment vu. Il a son flingue de côté, et quand Ezra va pour intervenir, boum, il le canarde aussi. Et là je me suis dit, ouais, là il est trop top, ils l'ont vraiment bien réussi. Et voilà, c'est ce que j'attendais pour le personnage. Donc bien sûr, ils vont se faire emprisonner, mais bon, ils vont se faire sortir par Chopper. Mais ce que j'ai surtout beaucoup aimé, donc bien sûr, après il se barre, donc il propose un échange avec Sham Syndulla. Mais Sham Syndulla est trop malin, il va baiser les Stormtroopers. Bon. A priori, voilà, et donc ils finissent tous par s'échapper, donc tout va bien, voilà. Et après, on retourne au point de départ en termes de scénario, en fait. Sauf que du coup, Thrawn les a bien captés et il décide de se mettre sur eux. Donc ça sous-entend, me dites pas la suite parce que je l'ai pas vu. Ça sous-entend que Thrawn, c'est un méga méchant, qu'il est charismatique, intelligent, exactement comme on l'aimait. Et je trouvais qu'ils l'ont extrêmement bien amené, Thrawn. Et les personnages s'échappent, bien évidemment, mais ils ont compris qu'ils avaient pas une petite pointure en face d'eux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, mon gros coup de cœur sur cet épisode, c'est qu'en plus, comme je suis en train de lire en ce moment Lord of the Sith et que on suit justement Cham Syndulla qui est en train de devenir vraiment un de mes personnages préférés dans enfin dans cette période là au même titre un peu de Bail Organa, j'adore vraiment le personnage de Cham Syndulla, il est vraiment creusé dans le bouquin. Le fait de le voir pile à ce moment-là, j'étais justement en train de me dire, j'aimerais bien regarder les revoir à nouveau les épisodes de The Clone Wars sur Ryloth avec Cham Syndulla et compagnie. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial. Le seul truc que je reproche un peu, c'est qu'on retrouve pas les persos du roman dans cet épisode et inversement, les épisodes, les personnages de parce qu'il a deux il a deux Twi'lek qui l'accompagnent, il a Numa et l'autre c'est Gobit, je crois, ou Gobli. Eh ben, on les retrouve pas non plus. C'est le gros Twi'lek bleu avec les balafres. C'est vraiment le gros reproche que Gobi s'appelle, voilà. C'est vraiment le gros reproche que je fais à cet épisode. Mais sinon, je l'ai trouvé, mais d'une fraîcheur, elle est vraiment, vraiment trop bien, quoi. J'ai adoré, quoi. Je vous laisse contrer mes propos parce que je sens que vous allez être plus nuancé.
Bah, pas vraiment, hein. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai vraiment aimé cet épisode. Je me suis dit, enfin, ça y est, la saison démarre. Ouf! J'ai trouvé que Thrawn était aussi très bien, très respecté par rapport à l'image qu'on en a de l'univers Legend, le stratège qui réfléchit, qui se met à la place de son ennemi, qui est pour qui la culture, les cultures
carrément.
Des différents peuples,
et là, est
quelque chose de l'art, oui, est quelque chose de très important. Donc, non, moi, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise.
Les autres ?
Moi, je crois que j'en demandais peut-être trop à Thrawn. J'ai été un peu déçu, pas par l'épisode qui, je le trouve pas mal, mais il y a quelques trucs que je comprends pas, en fait. Pourquoi elle va chercher cette statuette qui n'a aucune valeur si ce n'est familiale et risquer sa vie et celle de Ezra ? À côté de ça aussi,
j'ai la réponse tout de suite avant que tu repasses autre chose, je vais la perdre. Mais parce que tout simplement, elle pense qu'en face d'elle, elle a des Stormtroopers débiles, et au début, ça passe comme toujours. Mais non, elle avait pas calculé qu'il y avait Thrawn. C'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment montrer que d'habitude, avec les Stormtroopers, tu t'en fous. Même pour aller récupérer ce machin, elle peut y aller. Ça va passer nickel. Et d'ailleurs, au début, ça passe. Sauf que là, il y a Thrawn, et que du coup, ben, c'est vraiment l'histoire de leur dire attention, on a monté d'un level de notre côté, quoi. Voilà,
moi je suis pas d'accord, c'est pas la façon de penser des rebelles, je trouve pas. Eux ils font les trucs que quand c'est nécessaire, ils font pas les trucs parce qu'ils peuvent, quoi. Enfin, c'est mon avis par rapport au tien. Mais je pense que elle est quand même plutôt leader. Et en tant que leader, pour moi c'est une grosse connerie que d'aller tenter sa vie et celle d'un
Est-ce que ça la rend pas plus humaine ? Est-ce que ça la rend pas plus humaine justement même en tant que leader ? Des fois, d'être pris un peu par les sentiments, moi je sais pas, j'ai bien aimé au contraire ça.
Ça la rend humaine, c'est sûr, et puis ça lui donne du temps d'écran. Ok, je veux bien l'excuser, y a aucun souci, ça a donné un épisode intéressant, et surtout maintenant ils savent qu'ils sont face à Thrawn, je crois pas qu'ils le savaient avant.
Non.
Non, c'est vraiment dans cet épisode-là qu'ils le découvrent.
Ouais. Où ils avaient donc, pas mesuré l'ampleur du personnage, quoi.
Voilà, mais après, je n'ai jamais lu le livre sur Thrawn, parce que je connais pas très bien l'univers légende.
Il est pas sorti encore, le livre
sur Thrawn. Le nouveau livre n'est pas encore sorti.
Je parle des livres où il apparaissait avant.
Ah oui, il y en a au moins presque une sizaine plus, peut-être.
Alors, je sais pas si c'est vraiment genre un méchant dans ce genre vraiment méchant, mais si, dans mon idée, c'est un gros connard, on va dire. Même s'il est intelligent, charismatique et
pas
tout.
Pas forcément un gros connard, mais c'est le mec hyper calculateur, intelligent, froid. Mais certes, par contre, je vois ce que tu veux dire. Dans les romans, il est un niveau bien au-dessus en termes de réflexion, de tout. Mais sauf que il faut le rendre accessible pour des gamins, quoi. Parce que je vois l'intelligence tactique qu'il a et même culturelle et sur plein de trucs. C'est beaucoup plus poussé et ça jouait totalement sur justement ce qui est bien dans Star Wars, sur la culture des peuples, sur leur mode de fonctionnement, de pensée, sur la psychologie. Mais c'est trop poussé pour des gamins. Et je trouve que là, ils ont trouvé pile le bon degré parce que s'ils en faisaient trop, tu saoulais les gosses.
Non, ça je le conteste pas. Je sais que c'est un peu simple. Il y a un tableau immense avec une fille qui ressemble à Hera. Bon, ça me choque pas. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en face de lui, il a donc Hera Syndulla, et à côté, donc t'as Ezra déguisé. Donc, il sait très bien que c'est personne, si tu veux. et il préfère l'assommer plutôt que le tuer. Pour moi, un grand méchant, ça l'aurait tué direct. C'est juste, voilà, juste sur cette scène-là, je dis chaque fois que les rebelles tirent, ils tuent des gens, mais à chaque fois qu'on leur tire dessus, ils sont assommés. Ça va bien deux secondes, quoi.
Mm. Ah oui, mais tu peux pas non plus flinguer la moitié des héros à chaque épisode. Mm.
Mais dans ce cas-là, tu fais pas tirer Ezra, veuillez aussi immobiliser le Stormtrooper, boum, il le chope, lui mettre les mains dans le dos, c'est fini. Pas besoin de lui tirer dessus et d'ajouter une incohérence, même si elle est petite, c'est pas un gros truc, ça choque
peut-être
personne.
Peut-être qu'en les emprisonnant, ils voulaient les utiliser pour choper le reste de la rébellion, parce que Ezra, en soi, il s'en fout, quoi.
Mais peut-être que le fait
d'avoir Ezra, parce que si tu connais l'histoire, c'est que tu menaces de tuer l'autre, et puis l'autre y parle. Par exemple, il menaçait de tuer Ezra, puis Hera, elle aurait parlé. Ouais, ça me semble
non,
pas
parce qu'il fait du chantage au reste du ghost, donc il peut dire j'ai Hera. Ezra, pour lui, il
non, mais vous faire
pas
parler Hera, justement. Le fait de faire parler Hera,
très bien. Donc il en a pas besoin de deux, il en a une.
Ben si, puisque du coup, il les a les deux. Il fait parler Hera, et puis ah oui, je vois ce que tu dis, oui, en s'adressant direct au rebelle. Ouais, je sais pas,
mais
ça
il s'adresse directement au ghost, il les fait pas parler l'un contre l'autre, il les enferme tous les deux dans le même endroit.
Ouais, c'est vrai.
C'est que si, en effet, si j'avais vu après un interrogatoire,
débuter petit à petit.
Non, si j'avais vu en effet un interrogatoire après entre les deux séparés, j'aurais compris pourquoi il l'assomme. Mais là, en l'occurrence, il veut juste négocier Ezra et Hera avec le reste du ghost.
Donc, vas-y, continue sur le reste.
Ah non, c'est tout. J'ai dit que sur l'ensemble, c'est un épisode qui m'a quand même plu et que ça, c'est des petites incohérences qu'on trouve à chaque fois et j'arrive pas à passer outre. Alors que je devrais parce que, en effet, c'est un show pour enfants. Mais je suis peut-être trop difficile avec, je le dis à chaque fois. Mais j'arrive pas.
Sylvain ?
Bah moi j'ai bien aimé, contrairement à Jérémy, moi j'ai bien aimé le trône et toutes ces interactions. C'est vrai que c'est le prétexte de l'objet familial, ça fait un peu con-con, mais ça leur permet de rencontrer trône, que trône s'intéresse à eux. Ouais, globalement j'ai bien aimé tout ce truc, et puis voilà, la scène avec le scout, je sais pas, mais je la trouve super marrante. Tout au début, quand il se retrouve comme un con dans le gosse, je peux me la mettre en boucle, ça me fait marrer toujours autant.
Et puis les nurgles, moi j'adore aussi les bestioles à deux pattes, putain, c'est trop bon, quoi.
Ah, mais c'est pas ça, c'est plus la séquence où, comme un con, il est poursuivi, puis il se retrouve avec le ghost dans le dos.
Il se retrouve happé dans le ghost.
Toute cette séquence-là, j'aime bien.
Le Scoot Walker, il envoie du lourd quand même, parce que voilà, c'était couillu ce qu'il a fait, quoi.
Ouais, justement.
Mais bon, il se fait niquer quand même.
Donc ça me fait marrer. Mais Trône, pour moi, est un gros point positif de l'épisode. C'est vrai que j'aurais aimé le voir beaucoup, beaucoup plus. Et puis ça met enfin les rebelles face à quelqu'un qui a du répondant. Parce que globalement, si tu regardes tous les épisodes, ils n'ont pas spécialement eu de vraies difficultés en face d'eux niveau ennemi. Et là, ils ont intérêt à monter un cap sévère, quoi.
Je tiens juste à rectifier, j'ai jamais dit que je n'aimais pas Throne, hein. Je l'aime beaucoup et je trouve. Alors, tu parlais de la voix en VF, la voix en VO est excellente aussi.
En VF, elle est très bien aussi.
Et il a un charisme fou, ça se sent.
Et puis la musique et tout, enfin, l'espèce de. T'as l'impression que quand il arrive, ça pose le temps en fait, un petit peu, tu vois. Tout le monde serre des fesses quand il est là, quoi. Donc, c'est cool, quoi. Vraiment, il est bon, quoi.
Et puis, l'espèce de mépris aussi qu'il a envers les autres impériaux qui arrêtent pas de faire des conneries.
Je le trouve plus charismatique que Tarkin, par exemple.
Ouais, c'est bien réussi. Ouais.
Dans Star Wars Rebels, je veux dire.
Mais j'étais en train de réfléchir à ce que tu disais, Jérémy, sur le fait qu'il tue pas Ezra directement. C'est peut-être aussi le fait que, justement, il soit très tacticien, qu'il ait tendance à utiliser plus les rayons paralysants que de tuer, en se disant toujours « Je verrai dans un deuxième temps si je peux pas utiliser la personne ».
Je valide.
Non, c'est pour ça que je demandais si en effet c'était vraiment un mec qui tirait ou un mec qui analysait plus les choses.
Bah, d'habitude, c'est un grand amiral, donc si tu veux, dans l'aspect Legend, tu le vois jamais au corps à corps, donc tu te poses pas vraiment la question.
D'accord.
Parce que moi, il est plus en train de gérer une flotte, quoi. Donc, c'est pas là du tout le même genre de personnage auquel on a affaire.
Ouais, d'habitude, oui, c'est plutôt sur du gros enjeu. Et peut-être qu'on le verra dans Rogue One.
Ça,
ce serait bon.
Peut-être.
Tout est possible.
Sait-on jamais.
Nah.
Eh bien, je vous propose de noter cet épisode. Sylvain,
oh, le blanc.
Oui, du coup, je suis chez le Jansé. Vas-y, Céline.
Moi, je donne un 16, du coup. Bonne note. J'ai bien aimé. Ça m'a motivé pour le reste de la saison.
Sylvain, ben non.
Moi, je mettrais un 15.
Jérémy.
Moi, je suis un 13. J'ai quand même préféré l'épisode 2 à celui-là. L'épisode 1, pardon. Voilà.
Alors, moi, je lui mets carrément un 18, mais sans hésiter, quoi. C'est dans les meilleurs épisodes de Star Wars Rebels qui m'était donné de voir, hein. Vraiment. Alors, est-ce que le côté les Twi'lek et tout, ça a pas un peu joué, le côté Cham Syndulla, les Scoot Walker, plus les Narc, plus Throne, plus... Ouais, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de gros bonus, quoi. Et avec une histoire qui passe bien, je me suis pas ennuyé une seconde. J'ai adoré, quoi. Vraiment, c'était top, quoi. D'ailleurs, j'aimerais bien voir Cham Syndulla dans Rogue One aussi, enfin... Je me dis, ouais, il y a vraiment... J'espère que Rogue One va vraiment taper sur Star Wars Rebels, va vraiment s'en inspirer. Et puis voilà, quoi, pour cette fin d'émission. J'imagine que cette émission, ça va être la dernière avant Rogue One. Un dernier petit mot avant une petite phrase pour Rogue One. Vous en profitez pour redire un petit peu comment on peut vous contacter personnellement, Jérémy ?
Moi, par le Facebook, enfin par tous les moyens de communication de Star Wars en direct, je lis les messages comme Danny, comme les autres. Donc, n'hésitez pas à me parler par ses moyens.
Et une petite phrase sur Rogue One.
Je l'attends presque au même niveau que l'épisode 7, au niveau de l'anticipation, et j'espère être tout aussi agréablement surpris, parce que je faisais partie des gens qui avaient quand même adoré l'épisode 7 dès le premier visionnage.
Céline ?
Pareil que Jérémy, vous pouvez me joindre grâce à toutes les adresses mail, Facebook, Twitter de Star Wars en direct. Et pour Rogue One... J'attends, j'essaye de pas trop me spoiler, et puis voilà.
Sylvain ?
Bah moi, pareil que les collègues, hein, via le Facebook et Twitter de Star Wars en direct, via mon fil Twitter Sylvain Gamin Live, puis bah pour Rogue One, dans 5 jours, moi je le verrai. Nananer, ouais.
Alors, me concernant, ça va être principalement pour me contacter par Facebook, avec l'usager Tom and Roses, et puis également sur le fil Facebook de l'ensemble de nos émissions, où je poste également pas mal, à l'adresse mail studio@starwars en direct. Et puis, pour Rogue One, eh bien, moi, là, le fait qu'on m'ait fait un teasing comme ça avec le Ghost, je me dis, tout est possible, mais ce qui est dommage un petit peu, c'est que là, ça commence à élever mes attentes, notamment en termes de cross-média. J'espère que je vais pas être déçu, que ce sera pas juste un pauvre plan à deux balles où tu vois le Ghost au fond, juste histoire de pouvoir l'intégrer dans Star Wars Rebels. J'espère franchement, maintenant franchement, j'ai une attente plus élevée. C'est malin de nous spoiler comme ça, parce que du coup maintenant j'espère bien voir au moins des équipages des membres de l'équipage de Star Wars Rebels. J'attends au minimum un personnage, au moins Hera. J'espère que je me plante pas et franchement qu'on va pas être déçu, quoi. Et puis qu'ils auront pas, ce sera pas juste un arrière-plan et qu'ils auront au moins une scène. Ça pourrait être bon, quoi. Donc voilà. Maintenant, ben on attend Rogue One et puis on est à fond, quoi. Donc je vais en profiter quand même pour remercier l'ensemble de nos partenaires, hein, qui relaient nos émissions. Qui ont été cités dans le générique. La prochaine émission, a priori, qui sera enregistrée, ce sera celle où on va analyser le fameux Rogue One. Hein, et moi, j'en ferai pas partie parce que je l'aurais pas vu à ce moment-là. Je vais être frustré de vous écouter, les gars, après, et de pas pouvoir dire un seul mot et pas pouvoir rebondir sur vos critiques, mais au contraire, de pas pouvoir aller dans le sens inverse de ce que vous dites. Mais voilà, faudrait que je m'y fasse, mais j'ai vraiment hâte de le voir, ce film, et puis de vous entendre faire la critique. Franchement, ça va, je pense que je vais sauter directement sur le podcast quand j'aurai vu le film, pour écouter vos avis et voilà, savoir ce que chacun en a pensé. En attendant, ben moi c'est pareil, je vais me mettre en attendant d'avoir vu le film, je ferai une pause, je vais me couper d'internet avant de trop me faire spoiler, quoi. Donc de la part de Sylvain, Céline, Jérémy et moi-même, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct Rebels. Nos meilleures attentes pour la suite de la série. Et puis en attendant, que la force soit avec vous.